l'île-Dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-Dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-Dieu mettait la mer en boîte.
Premier épisode, au temps du petit cabotage. Alors l'île-Dieu, au début du 19e siècle, c'est quoi?
Pour donner du contexte au récit qui va suivre et qui va nous entraîner jusqu'aux usines de la fin du 19e siècle, il faut commencer par dire que l'île, au début de ce 19e siècle, est alors un petit territoire isolé, éloigné du continent, avec lequel la liaison est plus qu'irrégulière. L'île est pauvre, peu peuplée, peu cultivée, dépourvue d'arbres. C'est un pays qui manque cruellement de ressources depuis que le cabotage, miné par les guerres maritimes de l'Empire et la présence quasi continuelle des corsaires anglais sur nos côtes, n'est plus que le souvenir de ce qu'il a été dans le passé.
Au cours des siècles précédents, la population de l'île-Dieu a subi d'assez grandes variations. Mais en 1803, époque de son occupation militaire, elle compte à peine 1900 âmes, comme on disait pour désigner les personnes. C'est une population à la fois maritime et paysanne qui s'accommode comme elle peut de ce que l'île lui propose et des vicissitudes de son temps. Ces marins pratiquent encore principalement le petit cabotage. Ce sont des hommes expérimentés, pouvant aussi être pilotes en diverses circonstances, compte tenu de leurs compétences.
Qu'est-ce que c'est que ce petit cabotage ?
Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Brest et Rochefort sont alors de grands ports de commerce et la Loire un axe essentiel de communication. Depuis le XVIIe siècle, la saison de cabotage commence au début de l'automne au moment des foires de Bordeaux. À partir de ce port, les bateaux chargés de barriques de vin appareillent vers les ports de Bretagne, remontant parfois même jusqu'en Manche ou en mer du Nord. Ils reviennent chargés de sel, de beurre ou d'étoiles de Bretagne et effectuent plusieurs fois l'aller-retour entre Bordeaux et Nantes au cours de la saison. Sur l'île, c'est l'activité principale jusqu'en mai-juin environ.
De nombreux marins embarqués au cabotage interrompent alors leur activité pour aller traquer le thon dans le golfe de Gascogne et jusque sur les côtes espagnoles, puis ils repartent à partir d'octobre. À Port-Breton, l'ancien nom de Port-Joinville, au début du 19e siècle, les caboteurs débarquent le vin, le sel, le son, le blé, les marchandises les plus diverses, ainsi que les matériaux nécessaires à la vie courante, la chaux, la tourbe, le chanvre, et surtout le bois qui manque cruellement.
La vie sur l'île est difficile.
Oui, par exemple, on ne trouve pas le moindre bosquet d'arbres. Alors, pour leurs besoins en combustible, les habitants récoltent l'ajonc qui pousse sur les terrains vagues, les chirons ou encore le goémon, du varech cueilli sur les rochers puis séché au soleil. On fabrique aussi des tourteaux de fumier séché, les bousas, constitués de bouse mélangées avec de la paille.
L'île-Dieu, comme tant d'autres îles, ne vit guère que des apports du dehors. Il faut dire qu'à part au fond de quelques vallons, la terre insulaire est plutôt rare et médiocrement fertile. Le rocher affleure souvent. Toujours en ce début du 19e siècle, environ un tiers du sol est mis en culture, ce qui ne suffit pas pour garantir l'autosuffisance alimentaire de la population sur l'année. Le reste des terres, les landes de l'ouest de l'île notamment, sert de pâture aux bêtes, dont l'élevage principal est celui des brebis. Elles représentent 4000 à 5000 têtes selon les années et les épizooties.
C'est beaucoup plus que la population humaine.
Oui, mais l'île n'abrite que peu de prairies. Le foin manque et il est réservé aux bœufs, si utile pour les labours. Ce qui entrave le développement de l'élevage, autre que celui des ovins.
On y cultive quelques céréales, mais pas en quantité suffisante. Et souvent, à Port-Breton, on attend avec impatience la livraison du grain. Mais heureusement, les strands, cet espace entre mer et terre qui s'anime au gré des marées, offrent une source de nourriture non négligeable. Poissons, crustacés, mais aussi coquillages et parmi eux...
Les fameuses patelles.
Oui, les berniques.
Les jambes en patois.
Qui ont dû sauver quelques-uns de nos ancêtres de la disette.
Prenons une date, 1803. C'est l'année où Napoléon Ier décide de mettre en état la défense des côtes et des îles de l'Empire, après la rupture de la paix d'Amiens par l'Angleterre.
Oui, dans ce mouvement général d'organisation, ordre est donné de fortifier l'île-Dieu et d'y implanter une garnison.
L'île n'est pas essentielle stratégiquement, mais son port est un refuge pour les navires en haute mer. Donc, si l'on souhaite protéger le peu de cabotage qui existe encore sur la côte atlantique, l'île-Dieu, sentinelle sur la frontière maritime, ne doit plus à l'avenir servir de port de relâche et de ravitaillement à l'ennemi.
Donc Port Breton doit être défendu.
Oui, et cette préoccupation un peu guerrière va avoir pour notre territoire des retombées aussi inattendues qu'intéressantes. La présence d'une garnison importante en poste sur l'île va relancer l'activité économique.
En premier lieu, les bâtiments que nécessite l'installation des soldats, batterie de côte, logements, magasins, hôpital, donnent du travail aux artisans locaux et amènent sur l'île une population nouvelle, constituée d'ouvriers spécialisés.
Mais l'occupation militaire va aussi conduire à l'amélioration et à l'extension de la mise en culture de l'île, notamment par l'introduction et le développement de la culture des pommes de terre, qui se plaisent dans le sol insulaire. La présence de militaires qui louent leurs bras pour défricher et aider à mettre en culture des champs autrefois délaissés, faute d'hommes et de femmes disponibles et valides en quantité suffisante sur l'île, va, en une vingtaine d'années, améliorer l'ordinaire des habitants.
En 1825, les rapports militaires nous indiquent que les trois quarts des terres cultivables sont maintenant exploitées et que les rendements permettent de subvenir à la consommation locale.
Donc là, vers 1825, les conditions de vie changent un peu sur l'île Dieu. Le cabotage reprend ?
Depuis que la paix est revenue en 1814, sur l'espace maritime libéré, l'activité reprend. L'île vit un peu mieux. On y produit un peu de grains, des légumes, quelques fruits. Et on voit de nouveau des bêtes d'élevage dans les prairies.
Une petite vingtaine de bateaux de pêche côtière, montés de 3 à 4 hommes, assurent à la belle saison le ravitaillement local en poissons frais. Les pêcheurs en font sécher une partie qu'ils conservent pour l'hiver. Le thon, pêché de juillet à septembre, est, quant à lui, principalement destiné aux ports continentaux.
Cette période d'accalmie et la reprise des activités maritimes profitent à la population de l'île Dieu qui augmente régulièrement. En 1825, on dénombre désormais 2100 individus qui occupent environ 830 maisons réparties dans 21 villages ou hameaux. Port Breton abrite près de la moitié des habitants.
La population va croître encore tout au long du 19e siècle. Elle s'organise. Le service postal maritime civil profite désormais de la liaison militaire, assurée entre l'île-Dieu et Saint-Gilles-sur-Vie. Auparavant, la municipalité de l'époque l'avait confiée à un particulier. C'est dire la dépendance de l'île à la débrouille et au moyen du bord, comme on dit.
Mais la liaison avec le continent est encore très chaotique. Elle est souvent interrompue pendant plusieurs jours, voire des semaines, en raison des intempéries ou des avaries. Le bateau-poste se fait parfois attendre l'hiver pendant un mois entier.
Pourtant, malgré les aléas dus à son éloignement de la Grande Terre, le continent, l'île Dieu est, en cette première moitié du 19e siècle, à la veille de progrès qui vont profondément bouleverser un petit monde encore tout imprégné de l'Ancien Régime.
De grandes réalisations, de grands projets sont en cours. Ils ne vont pas tarder à voir le jour. Prenons le grand phare tout d'abord. Les marins réclamaient son édification depuis longtemps. Les naufrages étaient fréquents le long de nos côtes. C'est chose faite de 1829 à 1830 sur le tertre de la Petite Foule, sur la côte nord-ouest de l'île. Une belle tour de 33 mètres de haut monte vers le ciel, soit 50 mètres au-dessus du niveau des hautes mers. C'est la marée haute.
Le grand phare est enfin là.
Et alors, que devient le port ?
Pour le port, comme pour le fort, des projets ont été rédigés. Mais souvent, beaucoup de temps s'écoule entre les projets et leur réalisation. Port Breton a pris de l'importance. Malgré ses imperfections,
qui seront évoquées au prochain épisode,
il est un précieux refuge pour les caboteurs et les pêcheurs qui fréquentent le golfe de Gascogne. Une petite ville émerge autour de la crique.
On se retrouve pour la suite au prochain épisode.
Quand l'île Dieu mettait la mer en boîte.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou.
Voix, Sylvie Monlahuc
et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perrot.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.